Sylvette, bonjour.
Bonjour.
Georges, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Alors, vous êtes tous les deux ici. Comment vous vous êtes rencontrés ?
C'est plutôt difficile à dire, mais à l'époque, j'allais porter des huîtres, parce que j'avais des parcs à huîtres, j'allais porter des huîtres à Paris. Et j'en avais une copine qui habitait chez Bouton, qui m'avait dit, tu passeras, il y a le bal des pompiers, il faut que tu viennes nous faire danser. J'ai une copine avec moi. Alors, je fais porter mes huîtres à Paris. Et puis en retournant, puisqu'ils habitaient à Chef-Bouton, je passe à Chef-Bouton et on va au bal des pompiers. Et puis j'ai fait la connaissance de Sylvette. Et puis on est resté copains pendant X temps. Pendant au moins 4-5 ans. Oh oui, facile. Et puis après, la vie.
La vie, quoi.
La vie continue, voilà.
Et c'est vous qui êtes allé vers Sylvette ou c'est...
Non, c'est moi qui étais vers Sylvette, oui. Voilà. Et puis comme ça, après...
C'était en été, j'imagine.
C'était en hiver. Et ensuite, j'ai toujours continué à aller porter mes huîtres, ainsi de suite. Je passais là-bas les voir. Et puis, dans l'été, après, on a fait... plus connaissance, et puis disons que quelques années, ou 2-3-4 années, on s'est mis ensemble.
Mais c'est beau tout ça, vous avez pris le temps.
Ah oui, ça, il faut le temps quand on veut faire quelque chose.
Sylvette, il dit toute la vérité ?
C'est la vérité, effectivement. Parce qu'en plus, c'est-à-dire qu'il est tombé dans ma vie à un moment où je n'étais pas prête du tout à rencontrer quelqu'un. Voilà.
Du coup, il a fallu du temps avant que...
Absolument, avant que je me... que je me décide, que je puisse accepter. Quoi, oui.
Il a l'air tolérant.
Ça dépend pourquoi.
Et alors, ça fait combien de temps que ça dure
cette... Ça fait 30 et quelques années.
37 ans. 37 ans.
Nous sommes à la 37e année.
Oui, ouais. Oui, 2000.
Ah oui. Pardon ?
Oui, de 80, donc 2017, ça fait 37 ans. Les années 1980.
Et alors, la première
quand
danse...
On s'est rencontrés la première fois.
Ouais. Et alors, la première danse, c'était quand ? Parce qu'au bal, vous n'avez pas dansé.
Si,
mais quand même.
Oui, c'est-à-dire que...
Bon. J'ai dansé deux femmes. J'ai dansé Sylvette et sa copine. Ah. Voilà, un tour de rôle.
Il est invité pour... Parce que nous, on n'avait pas de cavalier. Alors, mon ami me dit, écoute, moi, j'ai un bon ami sur l'île d'Aix qui danse très bien. Alors, si tu veux, on va le faire venir et puis il nous fera danser. Chacun notre tour.
Et alors, c'est quoi sa spécialité, Georges ?
Au niveau de quoi de la danse ?
Oui.
Ah oui, la valse.
C'est la valse.
Un très grand danseur de valse, oui. Un très bon danseur. Hein. Dans tout, en fin de compte, à part les danses modernes.
La valse, le tango, la java, le passe-double, toutes les anciennes danses, quoi. Voilà.
Alors, au bout de combien de temps vous vous dites, on y va, on vit ensemble ?
Ah ben, c'est-à-dire, c'est Sylvette qui a décidé.
Ah là, c'est Sylvette, là. Elle prend les rênes.
Non, j'ai dit maintenant...
Parce qu'elle avait un magasin. Elle avait un magasin de chaussures à Chef-Bouton. Alors elle ne pouvait pas s'absenter, bien sûr. Alors,
Chef-Bouton, c'est où déjà ?
C'est dans l'île de Sèvres, sud de Sèvres. Oui.
Et là, tous les samedis après...
Ça, c'est après, oui.
Bah, oui.
Oui.
Alors elle avait son magasin, et puis quand on s'est connus... tous les samedis, elle venait sur l'île. Et le samedi, elle partait de chez elle à 8 heures, après la fermée de son magasin. Elle venait jusqu'à la fumée, et à 11 heures le soir, j'allais la chercher avec mon bateau à la fumée. C'est pas beau, ça?
C'est exactement ce que j'avais vu vous dire. C'est pas beau, ça? Et alors, vous étiez comment sur ce bateau, là?
Très à l'aise. J'ai jamais été sur l'eau avant, comme ça. Et là, vraiment très, très à l'aise. J'étais en pleine confiance. J'avais vraiment... J'ai jamais eu peur. Pourtant, on a fait des traversées vraiment assez houleuses. Mais au niveau de la mer, je parle. Mais c'était... J'ai jamais eu peur, non. Parce que j'étais en confiance avec quelqu'un de... C'était quelqu'un qui vraiment connaissait la mer comme personne. Hein. Il faisait corps, en plus, avec son bateau, lui... C'était d'ailleurs, tout un ensemble, la mer et le bateau, et puis le bonhomme.
C'est un bonhomme.
Oui.
C'est un pêcheur.
Il était pêcheur, marin, ouais. Il a fait plein de choses.
Là, mon bateau, là, tu vois.
Sur la peinture, là? Sur
oui.
Le tableau?
Oui, au fond.
Ouais.
C'est quoi le nom de votre bateau?
C'était un...
L'Aixois.
Il s'appelait L'Aixois, je l'avais appelé L'Aixois, d'ailleurs. Et c'est un bateau que j'avais transformé en chalutier. Et puis après, j'ai fait les lignes à barre avec. Voilà.
À l'époque, il n'y en avait déjà pas beaucoup. Oui, vous étiez nombreux à l'époque? C'était vers des années combien?
Je naviguais autour de l'île.
Pardon?
Je naviguais qu'autour de l'île. Enfin, entre les trois îles, quoi.
Ah, oui.
Parce que ça, aujourd'hui, ça n'existe plus, ça.
Ben si, toujours un peu.
Non, mais il n'y a plus personne qui fait ça.
Ah, il n'y a plus personne.
Ça a disparu, c'est vous le dernier?
C'est moi le dernier, oui. Voilà. Mais avant, j'ai fait autre chose. Hein. Quand j'ai connu Sylvette... disons que j'avais... Avant, j'étais au pilotage.
Oui, ça, c'était pas... Oui, alors là, c'est encore une autre aventure.
Oh, là, c'est autre chose, là.
C'est quoi, le pilotage?
Le pilotage, j'étais patron d'une vedette. Il faisait 8,40 m de long. Et j'allais chercher les pilotes à la fumée. J'allais conduire les... Quand les cargos montaient à Rochefort... Les cargos arrivaient en rade, je les mettais le pilote à bord, et je prenais le pilote de la palisse, j'allais conduire à l'île de Ré. Ça fait que. Et puis je revenais, ainsi de suite, et quand les bateaux descendaient, c'était le contraire, quoi.
Alors, en fait, vous étiez le guide pour éviter qu'ils se plantent?
Non.
Non, pardon.
Non, moi j'étais le patron de vedette. J'allais chercher les pilotes. Les pilotes, c'était des capitaines au long cours. Mmh. Qui prenait le bateau en charge pour entrer les bateaux au port. Alors moi, j'ai été chargé d'amener les pilotes à bord des cargos.
D'accord.
Voilà. Et là, il n'y avait pas de temps qui m'arrêtait. Qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, que le bac ne passait pas, qu'avec ma petite vedette, je partais chercher les pilotes et les conduire à bord des cargos. Alors j'ai vu de la misère, hein. Je peux dire.
Ah ouais?
Ah ça oui. Enfin, ça, c'est qu'une partie.
Non, mais...
Oui, quand vous dites la misère, du genre...
Mais si je racontais ma vie, par exemple, depuis le début,
oui.
C'est autre chose, hein.
Non, mais c'est facile à vue.
Non, mais là, on est...
sur les bateaux.
Là, on est sur le bateau.
Sur les cargos, là.
Quand vous dites...
Oui. C'est les cargos, oui. C'est parce que... Attends, vous n'enregistrez pas, là, non?
Ah, là, on est en direct, madame.
Ah, bon, non.
Non, mais c'est la mémoire en direct. C'est votre mémoire.
Oui.
Et alors, oui, pardon.
Oui, ce qu'il ne dit pas, c'est que les cargos changeaient de pilote pour rentrer dans la Charente.
Mais si, ben,
si tu l'as dit. Ah, si, il l'a dit.
Et alors, votre histoire à tous les deux, enfin, à tous les deux. Georges, oui, on va commencer par Sylvette. Sylvette,
non.
C'est quoi votre histoire avec la rencontre de Lisa? C'est intimement lié à Georges?
L'île d'Aix, ouais. Vous voulez dire? C'est-à-dire, j'ai découvert l'île d'Aix par lui, effectivement. Et effectivement, quand on a dit... Parce que moi, j'avais deux enfants aussi. Alors donc, c'était eux qui passaient le premier. Donc, j'ai découvert. Ils l'ont connu en même temps que moi. Et donc, parce que c'était la condition, s'il leur plaisait.
C'est un package.
Voilà. Donc, on a découvert l'île d'Aix, tous les trois, avec lui. Et c'est le meilleur ambassadeur qu'on ait eu pour nous faire découvrir l'île d'Aix. Donc, on était obligés d'aimer l'île d'Aix, ça c'est sûr. Ouais. Tomber vraiment. Tout était. On a découvert tout avec lui, la pêche, la nature, la vie sur l'eau en plus, parce qu'il était toujours sur l'eau, la vie en bateau. La vie, on a tout découvert avec lui, toutes des choses qu'on ignorait, vraiment qu'on était loin de penser que ça c'était comme ça. Quoi.
Et alors, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment particulier dans la découverte de l'île qui vous a offert, vous vous êtes dit, ah oui, c'est là.
C'est-à-dire que, oui, finalement, la première fois que je suis venue, là, oui, déjà, j'avais quand même, sans qu'il y ait rien entre nous, j'avais déjà eu, là, oui, effectivement, le flash. Oui, oui. Oui, oui, oui.
Et Georges, alors Zozo, parce que c'est Zozo ici.
Ah oui,
c'est ici,
oui.
Ici, c'est Titi, c'est Mimi, c'est Doudou.
Voilà.
Hein, et là, on est chez Zozo. Alors Zozo, pourquoi Zozo?
Parce qu'étant tout petit, quand je suis né, puisque je suis né sur l'île d'Aix, mes parents, il y avait d'autres gamins qui étaient là, qui m'ont appelé pourquoi Zozo, Zozoté, Zozo. Et puis, ils ont toujours resté.
Mais vous zozotez pas?
Non, pas du tout, mais il devait y avoir quelqu'un qui zozotait. C'est le mec qui m'a appelé comme ça.
Donc vous, votre histoire avec l'île, elle est toute écrite. Vous faites partie quoi, des 4-5 personnes encore sur l'île?
Des Kanaks.
Vous êtes un Kanak. On est en Nouvelle-Calédonie.
Oui, un peu, oui. Maintenant, je peux raconter ma vie de marin, si tu veux.
Vous êtes né vraiment ici ou ça, sur l'île?
Je suis né où est...
Au village.
Je suis né au village où est, pas l'épicerie, la...
Le magasin de vêtements.
Virginie
qui fermait.
Virginie, là. Je suis né là. Mes parents étaient là.
C'est une sage-femme qui vous a mis au monde ou tout... À l'époque, ça devait être, un tango.
Sur l'île d'Aix, il y avait l'ancienne patronne de bistrot, la Madame Fauché, et puis Madame Troba, qui fréquentait beaucoup l'église, Madame Troba d'ailleurs. Et ces gens-là, bon, donnaient leur vie à soigner les gens, en somme. Et quand il y avait un accouchement, tout ça, c'est elle qui s'en occupait. Donc j'ai dû être accouché par...
Il y avait un médecin, quand même.
Mais non, le médecin venait de Fouroir, il n'y avait pas de médecin sur l'île. Alors, le médecin venait de Fouroir, mais souvent, quand le tout est arrivé, les femmes étaient déjà accouchées. Hein.
Alors, la Gore, c'est ça, hein?
Oui.
La Gore, c'est quoi l'histoire de ce nom de famille
Mais, c'est-à-dire que mon grand-père est né sur l'île d'Aix. Mon père qui est derrière vous, là. Il est né sur l'île d'Aix.
Ce qu'on appelle une gueule.
Voilà. et moi, je suis né sur l'île d'Aix.
Voilà. Et le nom de famille, il veut dire... Enfin, je veux dire...
Bah oui, ouais. Chez mon père, ils étaient déjà 8 enfants à l'époque. Alors, ça fait du monde, hein. Et puis, bon, la famille s'est agrandie. Il y avait des cousins, il y avait des oncles, il y avait un peu à cette époque-là. Et tout ça, ça s'est élargi, quoi.
Et vous avez eu combien de métiers?
Alors, quand la guerre est déclarée,
Après le certificat d'études, quoi.
Oui. Après le certificat d'études,
à 12 ans.
J'ai eu mon certificat d'études à 12 ans. Mon père m'a dit maintenant... Il faut que tu gagnes ta croûte.
À 12 ans?
Ah ben, c'était comme ça à l'époque. Hein. Il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, comme lui était jardinier, il me dit, je vais te mettre dans une école d'agriculture. Ah, je dis, surtout pas.
Ah ouais, à 12 ans, vous saviez déjà que... Non.
Ah non, mais à 5 ans, j'étais dans les canaux en train de m'amuser sur la plage partout. Alors bon, il y avait la mère qui m'intéressait. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je dis, je veux faire marin. Tu veux faire marin? Il y a un de tes oncles là qui cherche un mousse.
À Oléronce.
Pardon?
À l'île d'Oléronce.
Alors, cet oncle-là, c'était pendant la guerre. C'était en 43, d'ailleurs. Et il avait une grande gabarre. On chargeait 50 tonnes à bord. Il n'y avait pas de pont à l'île d'Oléronce. On faisait le ravitaillement tout par bateau. Alors j'étais embarqué comme mousse, le bon machin, puis les vieux, dans le temps, c'était des peaux de vache. Hein. Alors là, j'ai vu de la misère. Hein.
Ça, c'était quoi, les années 50 ou les années...
Non,
40.
Hein? 40.
40. Les années 40.
L'année 43. En 1943. Alors, on allait à Rochefort, tout ça, à Rochefort, on montait à Rochefort avec le bateau, on allait à La Rochelle, on allait à l'Île-de-Ré, on allait un peu partout quoi, pour chercher du ravitaillement, que ramener l'Île-de-Ré.
Mais c'était quoi le ravitaillement à l'époque?
Ben, il y avait de tout. C'était de l'épicerie, c'était du charbon, c'était de tout. Ouais. On chargeait de tout.
Du vinaigre. Il y avait l'usine de vinaigre à Rochefort. Ouais. J'ai pas compris.
Ah, ben, ce qu'on faisait à l'époque, ça dépendait des saisons. On faisait, par exemple, au printemps, on chargeait de l'épicerie ou de machin, qu'on ramenait l'île d'Oléron. De l'île d'Oléron, on chargeait au printemps aussi des fûts de résine qu'on allait porter à la Tremblade. Alors, à la Tremblade, là-bas, il y a une usine de vinaigre. Alors, on déchargeait les fûts de résine, on nettoyait le bateau, on chargeait des fûts de comment ? Des casiers, des fûts de vinaigre, qu'on rapportait de l'Oléron, et même qu'on montait à Rochefort. C'était dingue, c'était tout par bateau, à l'époque.
Mais Zozo, à 12 ans, vous faites quoi sur ce bateau ? Vous portez des... À 12 ans, vous portez des...
À 12 ans, j'étais chargé d'arrimer dans la cale du bateau. Et quand on chargeait du charbon, c'était des briquettes. Et bien, on était le long du quai, il y avait une dalle qui venait des wagons, à Rochefort, par exemple, parce qu'il y avait une usine à Rochefort de charbon, là, où il y a le lycée. Ouais. C'était l'usine de charbon. On accostait devant, et les briquettes descendaient, les gars envoyaient les briquettes, et moi j'étais chargé d'attraper les briquettes, qui faisaient quand même 15 kilos, hein, et les passer aux gars qui étaient à côté de moi, qui les arrimaient, ainsi de suite. Alors une poussière de charbon. J'ai pleuré des fois et des fois. Hein. J'avais la peau qui se décollait avec le bré qui collait sur la peau, c'était affreux. Enfin, j'ai fait ça pendant 2 ans.
Quand même.
Ouais. Et puis j'en ai eu marre.
Mais la nuit.
La nuit, je pleurais. Hein. Puis les vieux étaient pas tendres. Alors après, je suis revenu sur l'île d'Aix. J'ai laissé tomber mon nom, je suis mis sur l'île d'Aix. Ben, il a fallu trouver un embarquement pour que les invalides courent. J'ai trouvé un embarquement sur un marin.
Donc à 14 ans
ben oui, avec 14 ans, oui. Avec un vieux marin du Dex, le père Ducasse. Et là, on a fait la pêche à la voile. Le chalut à la voile. On pêchait du poisson. Hein. Ça, on pêchait du poisson. Mais c'était dur parce que c'était toujours des changements de voile, ainsi de suite. Fait que le bateau marche toujours à la même vitesse. Puis quand il n'y avait pas de vent, ben, il y allait l'aviron.
8 mètres, hein, les avirons. Ouais. Des avirons de 8 mètres.
Ah ben c'est. Non, 6 mètres.
Non, 6 mètres, pardon.
6 mètres 50, exactement.
Alors quand on pêchait du poisson, ça veut dire qu'il y avait, du.
Ah ben on partait à peu près à 2 heures du matin. On mettait chalut à l'eau. Là, au large de l'île, on allait jusque devant l'île de Ré, on levait, ça faisait à peu près 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures de route, on levait, mais comme c'était tout à la main, hein, il n'y avait pas de treuil à l'époque, virer tout à la main, on mettait 1 heure pour virer le chalut. Mais quand il arrivait sur le pont, il y avait 10 caisses de poissons. C'était, on pêchait en quantité à l'époque.
Et on pêchait quoi? On ramenait quoi sur le...
Il y avait des sols, de la raie, de la sole, de la raie, du merlan, du taco, il y avait de la lotte, il y avait un peu de tout, du barbarin.
Il y avait du monde à l'époque.
Ah, il y avait du monde, beaucoup, beaucoup de poissons et beaucoup variés. Ouais. Et puis, ça a duré jusqu'en 1946. En 1946, on a changé de bateau. Père Ducasse avait trouvé un bateau qui appartenait à deux bouchers de l'île de Ré, qui voulaient faire naviguer leur bateau. Alors chouette, on est en plein mois de mai, on embarque à bord du bateau, bien, avec un treuil à moteur, c'était du gâteau,
Hein, le progrès.
Le progrès. Alors, le bateau marchait au moteur, bien comme il faut. Un troisième moteur, c'était la joie. Mais on l'a gardé qu'un mois. Parce qu'au mois de...
D'août.
Au mois d'août. 1er août 46. Le 1er août 46, on a sauté sur une mine. Une mine qui était dans le chalut. On a pris une mine dans le chalut, le bateau a coulé en 10 minutes, même pas. Alors, on a été récupéré par un baliseur de la marine nationale qui était dans les coins. Il est venu dans le coin. Il faisait des essais de moteur. Alors là, il a fait des essais parce qu'il a marché à toute pompe pour pouvoir nous récupérer.
Vous étiez combien à bord ?
3.
Vous avez eu le temps d'avoir peur
Dans des cas comme ça, on n'a pas le temps d'avoir peur.
Maintenant, tu es redescendu chercher les papiers.
On n'a pas le temps d'avoir peur parce que quand la mine a sauté, heureusement, la gerbe, ça monte à 150 mètres de hauteur. Hein. Elle est tombée, elle est machin, puis le courant nous a débordé. Ce qui fait que quand elle est tombée à ras du bateau. Elle aurait tombé dessus, on était foutus.
Hein. Personne de blessé ?
Comment ?
Personne, pas de blessé ?
Pas de blessé. On a été commotionné. Mais quand la jambe était descendue, le patron a dit, regarde en bas s'il y a quelque chose à sauver. En effet, il y avait la corbeille avec les papiers dedans. J'ai attrapé les papiers. Et puis, il y avait un chalut. On s'en passe à force dans des cas comme ça. Un chalut qui était enroulé, c'est pourtant costaud. Ça fait, sur le machin, ça fait 150 kilos. J'ai attrapé le chalut. Et j'ai viré, il me l'a attrapé, ainsi de suite. On a pu sauver ça. Puis les caisses de poissons qui étaient sur le pont. On a embarqué à bord du bateau, puis le bateau a coulé.
Voilà. Et à l'époque, le gilet de sauvetage
On n'avait pas le temps. Puis on ne prenait jamais le gilet de sauvetage. Non. Alors le patron, il avait déjà, comment on marchait à l'essence, il avait prévu, il dit, avant que le bateau coule, vous attrapez chacun un bidon d'essence vide. Hein. Comme ça, ça vous servira de bouée.
Pas bête.
C'est pas bête, hein, c'est sûr. Mais on n'a pas eu le temps parce qu'on a embarqué à bord du machin. Comment. On a passé un bout. Là, ils ont amarré sur le bateau. Mais quand le bateau a coulé et a commencé à agiter, alors ils ont coupé le bout, le bateau a coulé au fond. Quoi. Puis après, bon, on a repris l'ancien bateau pour la pêche. Que peut-être 15 jours après, 15 jours, 3 semaines après, on a repris l'ancien bateau. Mais quand on mettait le chalut à l'eau, j'avais une peur. On avait peur. Alors j'ai dit, ben, puisque c'est comme ça, je m'engage dans la marine nationale. Et je me suis engagé dans la marine nationale pour 3 ans. Et là, j'ai fait mes classes à Mimizan. Ouais. C'était Mimizan plage à l'époque. Mm-hmm. Et il y avait encore des prisonniers allemands qu'on gardait à l'époque. Et ensuite, alors là, c'était au mois d'octobre, je suis engagé le 4 octobre 46. Et puis j'ai fait les classes et puis après je suis resté jusqu'au mois de février. Au mois de février, il y a le commandant du camp, il me dit, Lagor, il dit, ça vous intéresserait de faire un cours de gabier manœuvrier? Ben, je dis, bien sûr. Mais il dit, je vous envoie à bord du Richelieu. Ah, il m'a envoyé à Brest, non, à Cherbourg. Il m'a envoyé à Cherbourg, j'ai embarqué sur le Richelieu, le plus gros bâtiment de la France. Et j'ai fait le cours pendant un an.
Vous étiez combien à bord ?
2800 en temps de paix, 2004 en temps de guerre. Ah, c'est pas un petit bateau, hein. 248 mètres de long, 45 000 tonnes.
Donc là, vous êtes à Cherbourg ?
Ah, là, je suis à Cherbourg.
Et vous partez ?
Et on a commencé le cours à Cherbourg, tout ça. Et bien de Cherbourg, on était à Toulon. À Toulon, on a fait la peinture. Peinture potasse, que le bateau soit nickel. On a embarqué le président de la République,
à l'époque,
Vincent Auriol.
Auriol, oui. Ouais.
Et qu'on l'a embarqué à bord, on l'a emmené à Dakar. Et puis à Dakar, bon, réception, fallait voir. Alors, j'ai me dire que c'était pas gai pour nous. Hein, parce que le matin, t'avais, elle appelle le matin à 8h, Tu avais l'hymne national du pays, l'hymne français, et puis on avait...
Garde à vous.
Garde à vous, en tenue numéro 1 sur le pont, tous ces bonhommes alignés. Ah, c'était spectaculaire. Hein.
Vous étiez tout en blanc ou...
En blanc, ouais. Avec pantalon blanc, chemisette coloniale. Ouais. Voilà.
Et là, on reste combien de temps à Dakar? Enfin, à Dakar ou...
Là, j'ai resté 15 jours, on est resté 15 jours à Dakar. Et puis là, le président lui est parti. Après, on a remonté, on est Casablanca. Casablanca, après Merzel Kébir. Après, on était à Alger. Alger, c'était bien parce que j'avais un oncle qui habitait Alger. Il venait me chercher à bord du bateau, c'était super. Et puis après, on est retourné à Toulon.
Mais c'était quoi la mission? On allait dans les colonies, et c'était quoi?
C'était pas une mission, ils faisaient tous les machins. Puis après, on est retourné à Cherbourg. Ouais. Puis là, le Cherbourg, on a terminé le cours de Gabier. Et puis quand j'étais reçu, ils m'ont envoyé à Bizerte après.
Donc l'aller-retour, là, c'est quoi, 3 mois, 4 mois, c'est... quand on part de Cherbourg, qu'on va jusqu'à Dakar.
Oui, ça faisait à peu près dans les 4-5 mois, oui. Et puis après, l'année suivante, je suis parti donc à Bizerte. Ils m'ont envoyé sur un camp de sauvetage.
Bizerte,
oui, en Tunisie. Voilà, à côté de Tunis, quoi. Et puis là, je suis resté un an et demi.
Et pourquoi Bizerte?
Parce qu'il y avait une base navale. Une base navale Bizerte. On était basé à la pêcherie. Et puis dans le fond du lac, il y avait Ferryville. Ferryville, c'était l'arsenal. L'arsenal où il y avait tous des torpilleurs, des machins comme ça, des cale-sèches. Il y avait un peu de tout là. Il y avait un arsenal, quoi. Et en face, la pêcherie. Il y avait Baie des Carrières, où c'était un arsenal souterrain, sous le...
Alors Zozo, quand on arrive à Bizerte, à quel âge t'arrives à Bizerte? T'avais quel âge?
Quand je me suis engagé, j'avais 17 ans. 17 ans, oui. Donc à Bizerte, j'avais 19 ans.
Et alors ça se passe comment, Zozo, vous êtes en contact avec les locaux? Comment ça se passe, l'échange, la relation à l'autre? Vous êtes les Tunisiens?
Ah ben nous on avait, ça se passe comme dans toutes les colonies, ça se passe pas trop mal, pas trop mal disons.
Vous êtes bien accueillis?
Ça dépend, pas toujours bien, pas toujours, ça dépend.
D'accord.
Voilà.
Et alors donc ça c'est des... une partie de vos vies.
Voilà. Et alors après la Tunisie, quand je suis rentré, ben c'est-à-dire que après là, ils m'ont embarqué. Après le remorqueur de sauvetage, j'en avais marre, j'ai demandé mon changement. Et ils m'ont embarqué à bord d'un passager civil et militaire, l'Alphée. L'Alphée, c'était un ancien yacht de Madame Coty, les parfums Coty, l'Allemagne, qui avait fait cadeau de son yacht à la France juste après la guerre. Alors là, c'était la vie rêvée. On faisait le trajet entre Bizerte, Ajaccio, Marseille, Ajaccio, Alger, Ajaccio, Toulon, Ajaccio, pas Merzel Kébir. C'est à côté, comment, Oran, et puis on faisait ça tout le temps. On passait le long des Baléares. On était tout le temps en mer. On arrivait, bon, il fallait décharger le matériel, tout ça. Et les gens embarquaient, ainsi de suite. Et puis on était presque tout le temps en mer.
Et alors qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps?
Pendant ce temps-là, on travaillait à bord. Il y avait le service de nettoyage, il y avait ceci, et ça, il y avait le service à la barre, il y avait tout à temps. On est toujours occupé. Hein.
On n'a pas le temps de discuter?
Oh si, oh là.
Ouais. On fait le monde.
Et puis de toute façon, il y a des heures de quart. C'était 2 heures. Des fois, c'était 4 heures, ça dépendait. Voilà. Et moi, j'étais le pacha, il m'a foutu la barre au départ. Quand il a vu que je savais faire la barre, il dit, bon, à la gare, vous allez être quartier maître calier. Alors, je m'occupais de la cale, de chargement de la cale.
Voilà. Alors, Pénard ?
Ah bah oui, c'était un gars, Pénard. Quand j'avais, les autres sortaient à terre, moi, j'étais chargé de matériel et je rembarquais le matériel. Voilà, une fois que c'était fait, je le faisais faire. Attention, hein. Je regardais simplement. Il disait, il faut faire ça comme ça,
pas
comme
fou,
ça,
et
comme
pas ça. Fou.
Voilà. Et puis, une fois que c'était fini, qu'on fermait le panneau de cale, bon, ben, j'ai traîné un peu sur le pont. Le pacha, des fois, il me voyait, il me dit, là, gars, vous ne sortez pas à terre ? Oh, ben, je dis non, comment on... Il dit, je vois ce que c'est. Il dit, va te changer. Bon. Alors, j'allais me changer, puis tu passes à mon carré. Bon, je passe à son carré, il me donnait des sous. Il dit, fou, mais quand je ne vais pas te voir avant minuit. On avait un pacha, là, il était super.
Ouais. Alors, monsieur Lagor, à vous vous écoutez comme ça, là, à voyager.
Oui.
On a l'impression qu'en fait, on a l'impression que vous... À partir de quand vous avez été sédentaire ? Vous avez été tout le temps sur l'eau, en fait.
Mais j'ai été tout le temps sur l'eau. Tout le temps sur l'eau. Une fois que j'ai fait mon service à bord de l'Alphée, quand j'ai eu terminé mon service, mes 3 ans étaient terminés, le pacha me dit, allez, les gars, il faut empiler, vous avez de l'avenir devant vous, vous êtes passé quartier maître, maintenant vous allez passer quartier maître chef, et puis bientôt second maître. Alors il dit, bon, ben, il faut empiler. Ben, je dis, oui, commandant, vous êtes bien gentil. Mais si je restais avec vous, d'accord, je rempile. Mais comme je sais que vous partez et qu'on ne peut pas vous suivre, ben je dis, je rempile, mais dans les casquettes à carreaux. Alors, bon, il réfléchira, c'est tout réfléchi. Puis je suis parti de la quille, quoi. Voilà. Puis en arrivant ici, ben, il a fallu trouver un embarquement. Aussitôt arrivé, j'ai trouvé un embarquement à La Rochelle sur les dragues. Les dragues, les porteurs de machin, et ainsi de suite. Alors je suis resté 5 ans. 5 ans à La Rochelle, à naviguer sur ces bateaux-là. Après, ils ont désarmé pour 6 mois. Il a fallu que je trouve un autre embarquement. Je suis revenu sur l'île d'Aix. C'est là que j'ai commencé à revenir sur l'île d'Aix. Et là, j'ai embarqué sur les passages, sur les petits bateaux des passages. Et puis, étant sur ces petits bateaux, là, j'ai navigué pendant 3 ans sur ces petits bateaux. Et puis un jour, les pilotes, sachant que j'avais fait la pêche, que je connaissais tout le courroux, leur patron vedette était barré. Et ils sont venus en plein mois de juillet. Il me dit, il faut que tu viennes faire le remplacement. Alors je dis oui, moi je peux bien, mais que ce soit l'année. Hein. Elle me dit d'accord, pas de problème. Alors j'ai rembarqué à bord de cette vedette. J'avais les 2 vedettes à m'occuper, tout seul, à faire le carénage et tout le bazar. Et je suis resté 11 ans et demi au pilotage. 11 ans et demi au pilotage. Après, quand le pilotage... J'en ai eu marre que ça ne payait pas, parce qu'ils m'en demandaient de plus en plus, et puis ils payaient. Parce que... Alors, j'étais obligé de passer mon brevet de patron, j'ai donc passé mon brevet de patron, mais ils m'ont toujours donné la paye de matelot. Et les heures supplémentaires, c'était pareil. Alors j'ai dit, bon, j'ai bien gentil les gars, mais hein, je me barre.
Ouais, ça a l'air d'être régulier, ça, chez vous, Zozo. Au bout d'un moment, bon...
Mais c'est régulier pour la question de gagner sa croûte. Hein. Ouais. Voilà. Alors quand j'ai vu ça, ben, j'ai préparé mon coup. J'ai dit, maintenant, il faut que j'achète un bateau. Et puis, alors, tout en faisant le pilotage, alors, c'était souvent la nuit. Alors, la nuit, quand j'arrivais, je me levais... des fois, j'arrivais à 11 h le soir chez moi. Et des fois, à 1 h du matin, je repartais. Et puis... Et j'arrivais vers 3-4 heures le matin. Je n'allais pas aller me recoucher. Alors j'avais une casemate. Et puis dans ma casemate, j'avais...
C'est quoi une casemate?
C'est un... Alors la casemate, c'est des machins de pendant la guerre, des blocos en somme. Hein? Alors j'en avais loué une. Et puis la nuit, j'arrivais dans ma casemate et je fabriquais des casiers. Alors, j'ai fabriqué 200 casiers à crevettes. Je me suis fabriqué 40 casiers à crabes. Et puis j'ai dit, maintenant j'achète un bateau. Alors quand j'étais prêt, j'ai emprunté de l'argent et j'ai acheté un bon bateau. Donc celui-ci. Là.
Combien de mètres?
8 mètres 40. Et puis j'ai dit au pilote, au mois d'avril, j'ai dit, mes gars, vous êtes bien gentils, mais vous ne voulez pas raquer, eh bien je me barre. Et je me suis barré. Ils ont été pendant 2 ans sans trouver personne pour me remplacer. Mais là, ils ont été obligés de cracher, parce que le gars qui a repris la place après, il a dit, moi, je veux bien, mais... Moi, ils ne voulaient pas me payer, mais là, ils ont été obligés de cracher. Et moi, je suis parti à la pêche. C'était bien.
Et alors, quand vous partez à la pêche sur votre bateau, que vous construisez, ça coûte combien à l'époque de construire son bateau?
Je n'ai pas construit mon bateau.
Pardon.
J'ai acheté un bateau qui était tout neuf. J'ai eu un coup de bol là, parce que ce bateau, c'est quelqu'un qui l'avait fait construire à l'île d'Oléron. Et puis, il s'en est jamais servi parce qu'il était tout le temps bourré, le mec. Alors, puis il en est mort. Et sa femme l'a vendu par voie de justice. Ça fait que je l'ai payé pas grand-chose, mais un bon bateau, quoi.
C'est-à-dire?
À l'époque, ça faisait une brigue et demie.
Non, mais tu parles de bon bateau, je pense que la qualité du bateau, quand vous parlez bon bateau, c'est un bateau, ce qu'il était capable de faire, enfin, je veux dire...
Ah, ben c'était un, ça, c'était un bateau qui était fait pour faire l'ostréiculture. Ils appelaient ça un bac ostréicole. Et moi, j'ai transformé en chalutier. Voilà. Alors, j'ai commencé. J'ai fait le chalut d'abord, avec le bateau. J'ai fait le chalut pendant 2 ans, 3 ans. Et puis, vu que ça ne payait pas, alors là, après, j'ai laissé tomber le chalut. J'ai fait carrément les casiers. Les casiers et les lignes à beurre. Là, j'ai gagné ma croûte.
D'accord.
J'avais, autour de l'île, j'avais 3 km de lignes que je levais tous les matins. Alors, j'étais pas tous les jours dans mon lit, hein.
J'ai pas l'impression.
c'était 2h, 3h du matin. Et le soir, quand j'arrivais chez moi, j'arrivais, il faisait nuit. Hein.
Je pense que vous dormiez bien la nuit.
Maintenant, oui, je récupère.
Alors, Sylvette.
Oui.
Quand on a un homme comme ça.
Oui.
Au moment où vous vous rencontrez, où vous tombez amoureux, vous dites, bon, ben, on va faire notre vie ensemble. Il est toujours aussi actif comme un monsieur?
Ah bah oui, mais il ne perd pas son activité. Parce que non seulement il avait un bateau d'abord qui tenait bien la mer, ça c'est sûr. Donc il a bien gagné sa vie avec ça. Et puis après, bon, ben, jusqu'à l'âge de sa retraite, il a été tous les jours sur l'eau. Hein. Jour et nuit, plus d'heures sur l'eau qu'à terre. Hein. Et après, il a construit la maison quand on s'est rencontrés, parce qu'il n'avait pas de maison. Donc, il a fallu trouver une solution, et il a construit cette maison. Et
c'est vous qui lui avez dit il faut construire la maison?
Ben, c'est-à-dire, je ne lui ai pas dit il faut construire la maison. C'est-à-dire, là, on ne va pas tout raconter. Mais
non.
Là, comme il était mal logé, très mal logé, j'ai dit, bon, tu ne peux pas rester comme ça, hein, quand on vient le week-end, etc. Il faut absolument que tu fasses une location quelque part. Ah, là, non, il était hostile à la location. Et là, comme il avait un bout de terrain qui venait de son père, il a racheté 2 parts à ses sœurs. Et puis, il a construit sa maison lui-même. Alors, quand il m'a dit, je vais construire ma maison moi-même, je n'y croyais pas, ça, c'est sûr.
Un marin qui construit aussi des...
Et absolument, c'est pas un maçon. Il n'avait rien d'un maçon, en plus. Alors, et il a construit la maison, toute la maison.
Alors, Sylvette, avec tout ce que nous raconte Zozo, vous, Sylvette, pendant ce temps-là,
Mais moi, j'étais chez moi. Hein. Je travaillais, il fallait que je gagne ma vie aussi, moi, de mon côté.
Ah, vous travaillez.
Ouais. Oui, il fallait que j'élève mes enfants, hein, que je finisse les études, tout ça. Donc, moi, j'étais...
Vous travaillez sur l'île d'Aix,
c'était... Ah, non, moi, j'étais dans les Deux-Sèvres, là, où on s'est rencontrés. Toujours. Ah, oui, d'accord. Moi, je suis restée deux-sèvrienne, dans le fond de Deux-Sèvres. Mais c'est vrai que là, moi, je venais le week-end à cette époque-là.
D'accord.
Hein, et puis, donc, lui, pendant ce temps, mais il construisait la maison. Quand il était à la retraite, et puis moi je venais le week-end. Et puis petit à petit, ben, ça a avancé, et c'est comme ça qu'il a pris.
J'ai pris ma retraite en 84. Et en 85, j'ai dit, j'ai construit ma maison.
Ok, très bien, je comprends mieux.
Voilà.
Ah, parce qu'en fait, moi je me demandais par rapport à madame, je me disais, voilà, quoi, quand on a son homme qui est tout le temps sur l'eau.
Oui, mais là, à l'époque, j'étais pas sa femme.
Alors, pardon.
Alors, j'ai construit ma maison, j'ai commencé à faire les fondations. J'ai coulé mes fondations. J'ai pris 4 copains pour couler la plateforme parce qu'il fallait que tout soit coulé en même temps. Voilà. Et après, j'ai tout monté, mes murs moi-même, ma toiture, tout. J'ai tout fait, tout.
Tout seul?
Tout seul.
Sauf la plomberie,
l'électricité. Et j'embauchais le matin, il ne faisait pas jour. Et je défaussais la nuit, le soir quand il faisait grand nuit.
Il faut dire, pour les gens qui nous écoutent, on est dans une maison, quoi.
Là, on est dans une maison.
Il y a quoi? Il y a 105, 200, combien?
Comment?
200 mètres carrés?
Non, il n'y a pas du 100 mètres carrés. Il y a, je sais pas, une centaine de mètres carrés. Mais, oui.
Moi, j'ai vu un peu grand. Non, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas fait semblant, quand même.
Il a fait une grande maison.
Oui. Bah, j'ai fait une grande maison, oui. Il y a deux chambres, un couloir,
oui, chambres.
Une salle de bain, des WC là, cette grande salle de séjour, la cuisine. Derrière, là, où on a refait ça après, c'était un garage pour mettre la voiture.
Oui.
Le garage, etc.
Puis moi, après, j'en ai fait une chambre pour les enfants quand ils venaient, avec la mezzanine et tout, comme ça, ils étaient chez eux.
J'ai fait ma cheminée.
Ah, oui, vous êtes assis contre votre cheminée.
Oui, là c'est le...
C'est lui qui l'a
fait. C'était rapporté à madame, et toute la cheminée, c'est moi qui l'ai fait, hein, tout. Tout.
Et voilà. Alors, la poutre, elle vient du temps de Napoléon.
Non.
Cette poutre, là, oui. Cette poutre, elle vient...
Fort de Lara.
Les arbres, devant le musée de Napoléon, il y avait des ormeaux qui étaient énormes, comme ça. Et puis, ils ont fini par crever. Ils ont arraché. Et le menuisier qui était là, il a fait débiter des poutres. Et il m'en a donné une pour faire ma cheminée. C'est ça vu Napoléon, ça. C'est pas beau, ça?
Si.
Surtout qu'il n'a pas été longtemps là. Il n'a pas été longtemps sur l'île d'Aix, Napoléon.
Oui.
Ouais. Il a eu le temps de voir les arbres, quand même. Oui.
Écoutez, je vous dis à tous les deux merci. Vous n'avez pas d'âge?
Moi?
Non.
Non, 89.
Non, mais je veux dire, votre amour, il n'a pas d'âge. Je vous vois tous les deux devant moi. Vous avez tous les deux les yeux qui brillent, comme si vous aviez commencé à danser hier.
Oui.
Est-ce que vous dansez souvent ensemble encore?
Mais non, on a des prothèses partout.
Avec ça, on ne peut plus danser.
Oula, effectivement.
Puis il n'y a pas que celui-là, c'est moi aussi.
Ah, les deux.
Oui.
Les deux genoux.
Et moi aussi, alors, donc, on a des prothèses. Moi, c'est la hanche et le genou aussi. Alors non, mais bon, disons qu'il est resté avec l'esprit jeune et tout.
On a quand
même
aussi.
Oui, on a 13 ans de différence quand même. Hein.
Ah oui, c'est meilleur.
Donc, effectivement. Mais on s'est toujours bien entendu. C'est-à-dire, on a toujours été dans le même sens. Il pensait quelque chose, je pensais autant. Donc, souvent, j'étais à ses côtés quand même pour l'épauler, malgré tout, quand même. Hein. Quand même, souvent.
Ah bah oui, c'est sûr.
Parce qu'il a plein de vivacité, plein d'idées, il est très riche en idées, il est très ingénieux, il a plein de choses. Mais après, si vous n'avez personne, des fois, pour vous accompagner, Ça marche pas toujours.
Pardon ? Les embarcations qu'il y a devant, là, ouais. C'est moi qui les ai fait.
D'accord. Parce que, comme ça, là, à vous rencontrer pour la première fois, on a l'impression que vous avez... C'est pas facile de vivre en couple.
Ah non, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Et vous, ça date pas depuis hier. Et là, vous nous donnez l'impression que vous avez encore plein de conversations, plein d'échanges, comme si voilà, vous étiez encore en train de vous découvrir.
Et encore plein d'années à vivre, j'espère.
Non, mais des fois, il y a des petites crises, la crise de 7 ans, la crise... Mais vous, ça fait un peu plus de 7 ans.
Ah, ça fait 37 ans.
37 ans. Voilà, c'est ça.
Ouais, mais non, mais ceci dit, c'est, au début, on n'a pas toujours été ensemble, bien sûr, mais on se voyait tous les week-ends quand même. Mais on a toujours marché dans le même sens, vu les choses de la même façon. Je pense que ça tient aussi. Hein, et on s'engage quand même, hein, faut pas croire.
Voilà. Hein. Et on sait faire. Hein.
Alors, qui est-ce qui gueule le plus fort? Je m'en doutais.
Ah ben, elle a davantage de voix. Hein.
Bah écoutez, je vous dis un grand merci. C'est vraiment un plaisir d'avoir discuté avec vous. De vous, de Lille.
Il a une vie très riche. Hein,
oui. De Lille, de vous et de votre histoire d'amour.
Ah oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire comme ça avec votre cœur avant qu'on se quitte?
Il y a tellement de choses que.
Bah oui.
Faut trier quoi.
On va faire un peu de tri.
Ben, tu dis comme d'habitude. T'as toujours ta bonne, ton bon dicton. Encore 50 ans comme ça.
Oui, oui. Ben oui, parce que quand je vois les copains qui disparaissent, rendus à mon âge, les merdes, ils marchent avec une canne, puis d'autres qui sont encore plus jeunes. Alors, je dis, moi, je suis en pleine forme, malgré ma maladie. Il faut rajouter ça aussi. C'est que j'ai une myélodysplasie.
C'est-à-dire, il lui faut...
Alors, on n'a plus de globules blancs, plus de globules rouges, plus de plaquettes. Alors, rendez pas crête. Voilà. Et bon, ben, j'ai envie de se soigner, quoi, se faire soigner. Alors, trouver les toubis qui me soignaient bien. Alors, toutes les semaines, c'est une série de piqûres. Deux piqûres, une dans le ventre, une dans l'épaule. Et puis, ça marche comme ça. Ça marche bien pour remonter les globules. Et puis, quand ça descend trop bas, eh bien, ils m'envoient à l'hôpital. Deux jours à l'hôpital, ils me font une transfusion et c'est reparti pour un tour.
Ça repart comme en 40.
Voilà.
Ben voilà.
Oui, ça fait déjà des années que ça dure. Alors c'est ce que je dis, encore 50 ans comme ça, puis ça ira.
Eh ben, on va faire comme ça.
Oui.
Je vous remercie.
Voilà.
Merci, Sylvette.
Je vous en prie.
Je vous dis à très bientôt.
Ben, à bientôt.
Merci.
Ouais.